Chapitre 20. Quand le Christ parut, nota, écrit tout spécialement pour l'ouvrage du docteur Eslemond, intitulé Baha'u'llah et l'ère nouvelle. Il y a 2000 ans, bien que les Juifs eussent attendu sa venue et en larmes prié chaque jour, disant « Ô Dieu, hâte l'apparition du Messie !» Lorsque parut le soleil de vérité, ils le vilipendèrent avec la plus grande véhémence et le renièrent, allant même jusqu'à crucifier cet esprit divin, ce Verbe de Dieu, le traitant de démon, l'appelant Belzébuth, ainsi que le rapporte l'Évangile. La raison de leur attitude, ils disaient « La révélation du Christ, selon le texte explicite de la Torah, sera confirmée par certains signes, et tant que ces signes ne se seront pas produits, quiconque prétendra être le Messie est un imposteur. » D'après l'un de ces signes, le Seigneur doit venir d'un lieu inconnu. Or, disaient les Juifs, nous connaissons tous la maison de cet homme à Nazareth. Et cette région n'a-t-elle jamais produit quelque chose de bon? Un second signe est qu'il doit régner avec une verge de fer, c'est-à-dire, pensaient les Juifs, une épée, alors que ce Messie n'avait pas même un bâton. D'après une autre condition, il doit s'asseoir sur le trône de David et établir le règne de David. Mais loin de siéger sur un trône, il voyait que cet homme n'avait même pas une natte pour s'asseoir. Une autre des conditions requises est la promulgation de toutes les lois de la Torah. Or, Jésus a abrogé les lois. Il a même rompu le sabbat, bien qu'un des paragraphes irréfutables du texte dise « Celui qui prétend être prophète fait des miracles et rompt le sabbat, sera mis à mort. » Une autre encore des conditions précise qu'en son règne, la justice sera si parfaite que l'équité et la droiture s'étendront du monde humain au monde animal, que le serpent et la souris partageront le même trou, la perdrix et l'aigle le même nid, que le lion et la gazelle iront en pâture dans le même pré, que le loup et l'agneau s'abreuveront à la même fontaine. Mais l'injustice et la tyrannie s'était tellement accru à cette époque qu'on le crucifia. Une autre encore des conditions exige qu'au jour du Messie, les Juifs prospérèrent et triomphent de tous les peuples de la terre. Or, ils vivaient toujours dans la pire déchéance, esclaves de l'Empire romain. Alors, disaient-ils, en quoi ce Messie peut-il être celui promis par la Torah? Ainsi, les Juifs repoussèrent le soleil de vérité, bien que cet esprit de Dieu fût vraiment celui annoncé dans la Torah. Mais comme ils n'avaient pas compris la signification des signes donnés, ils crucifièrent le Verbe de Dieu. À l'heure actuelle, les Baha'is affirment que les conditions requises furent remplies en la manifestation du Christ, mais non dans le sens où les Juifs l'entendaient. La description de la Torah est purement allégorique. Par exemple, on y trouve le signe de la souveraineté. Les Baha'is disent que la souveraineté du Christ est céleste, divine, éternelle, que ce n'est nullement une souveraineté éphémère comme celle de Napoléon. La souveraineté du Christ s'établit il y a près de 2000 ans. Elle persiste toujours. Et cet être saint sera glorifié à jamais sur un trône éternel. De même, toutes les autres caractéristiques se sont produites, mais les Juifs ne les ont pas discernées. Bien que 20 siècles se soient écoulés depuis l'apparition du Christ dans toute sa splendeur divine, les Juifs, cependant, attendent toujours la venue du Messie. Ils se considèrent comme seuls justes et voient dans le Christ un imposteur. Chapitre 21. Ô toi, distingué personnage, toi qui cherches la vérité. C'est avec affection que j'ai lu ta lettre du 4 avril 1921. L'existence de l'être divin a été clairement établie sur la base de preuves logiques. Mais la réalité de Dieu n'est pas à la portée de la compréhension humaine. Si tu réfléchis attentivement à ce problème, tu verras qu'un plan inférieur ne peut jamais saisir un plan supérieur. Le règne minéral, par exemple, qui est inférieur, est dans l'impossibilité de comprendre le règne végétal. Pour le règne minéral, une telle compréhension serait parfaitement impossible. De même, quel que puisse être le développement du règne végétal, il ne parviendra pas à concevoir le règne animal et une telle compréhension, à son niveau, serait inconcevable, car l'animal occupe un plan supérieur à celui du végétal. Cet arbre ne peut concevoir le sens de la vue ou de l'ouïe. Quant au monde animal, quelle que puisse être son évolution, il ne pourra jamais percevoir la réalité de l'intelligence humaine, qui découvre l'essence intime de toute chose et saisit les réalités invisibles, car le plan humain, comparé à celui de l'animal, est très élevé. Et bien que tous ces êtres coexistent dans le monde contingent, leurs conditions différentes, dans chaque cas particulier, les empêchent de saisir l'ensemble de la création. Aucun stade inférieur ne peut comprendre celui qui lui est supérieur, une telle compréhension étant impossible. Le plan supérieur, en revanche, comprend le plan qui lui est inférieur. L'animal, par exemple, comprend le minéral et le végétal. L'humain comprend les mondes animal, végétal et minéral. Mais ce dernier ne peut en aucun cas saisir les domaines de l'homme, et bien que toutes ces entités coexistent dans le monde phénoménal, malgré cela, aucun degré inférieur ne pourra jamais comprendre un degré supérieur. Alors comment serait-il possible qu'une réalité contingente, c'est-à-dire l'homme, comprenne la nature de cette essence préexistante qu'est l'être divin? La différence d'état entre l'homme et la réalité divine est des milliers et des milliers de fois plus grande que la différence entre le végétal et l'animal. Tout ce qu'un être humain peut conjecturer dans son esprit n'est que l'image fantaisiste de sa condition humaine et n'embrasse pas la réalité divine. C'est bien plutôt cette dernière qui le renferme. Ainsi, l'homme saisit ses propres concepts illusoires. Mais la réalité de la divinité ne peut jamais être saisie, car elle renferme en elle-même toutes choses créées, et celles-ci sont toutes en son pouvoir. Cette divinité que l'homme imagine pour lui-même n'existe que dans son esprit, et non en vérité. L'homme, toutefois, existe à la fois dans son esprit et en vérité. Ainsi, l'homme est plus grande que cette réalité fantaisiste qu'il est capable d'imaginer. Telles sont les limites extrêmes de cet oiseau d'argile. Il peut voleter sur une courte distance dans l'espace infini, mais ne pourra jamais s'élever à la hauteur du soleil qui brille dans les cieux. Nous devons néanmoins avancer des preuves raisonnées ou inspirées de l'existence de l'être divin, c'est-à-dire des preuves proportionnées à la compréhension humaine. Il est évident que toutes les choses créées sont rattachées les unes aux autres par un lien complet et parfait. Ainsi en est-il, par exemple, des membres du corps humain. Remarquez la manière dont tous les membres et les parties qui composent le corps humain sont reliés les uns aux autres. De la même manière, tous les membres de cet univers infini sont liés les uns aux autres. Le pied et le pas, par exemple, sont reliés à l'oreille et à l'œil. Celui-ci doit regarder en face avant que nous fassions un pas. L'oreille doit entendre avant que l'œil observe attentivement, et toute déficience d'un élément quelconque du corps humain engendre une déficience des autres éléments. Le cerveau est relié au cœur et à l'estomac, les poumons sont rattachés à tous les éléments. Il en est ainsi de toutes les parties composant le corps humain. Chacun de ces éléments remplit sa propre fonction spécifique. La force de l'esprit, qu'elle soit qualifiée de préexistante ou de contingente, dirige et coordonne tous les éléments du corps humain, veillant à ce que chaque partie composante accomplisse correctement sa propre fonction spécifique. Si toutefois il se produit une interruption dans le pouvoir de l'esprit, tous les éléments du corps failliront à l'exécution de leur fonction essentielle. Des déficiences apparaîtront dans le corps et dans le fonctionnement de ces divers éléments. Et le pouvoir de l'esprit s'avérera inefficace. Considérez de même cet univers infini. Il existe inévitablement un pouvoir universel qui renferme toutes choses, dirigeant et réglant toutes les parties de cette création sans limite. Sans ce directeur, ce coordinateur, l'univers serait incomplet et défectueux, semblable à un être dément. Or, comme vous pouvez le constater, cette création illimitée remplit ses fonctions selon un ordre parfait. Chacun de ces éléments exécutant sa propre tâche dans des conditions de sécurité totale, et aucune défectuosité ne pourrait être décelée dans ce fonctionnement complexe. Il est donc clair qu'il existe un pouvoir universel qui dirige et règle cet univers sans limite. Tout esprit rationnel est capable de saisir ce fait. En outre, bien que toutes les choses créées croissent et se développent, elles demeurent sujettes à des influences extérieures. Par exemple, le soleil donne la chaleur, la pluie fertilise, le vent apporte la vie, de telle sorte que l'homme puisse croître et se développer. Ainsi, il est évident que le corps humain est soumis à des influences de l'extérieur, et que, sans ces dernières, l'homme ne pourrait se développer. De même, ces influences extérieures sont à leur tour soumises à d'autres influences. Par exemple, le développement d'un être humain dépend de l'existence de l'eau, et l'eau dépend de l'existence de la pluie dépendant à son tour de l'existence des nuages, et ceux-ci dépendent de l'existence du soleil, par lequel la terre et la mer produisent de la vapeur, dont la condensation forme les nuages. Ainsi, chacune de ces entités exerce son influence et est influencée à son tour. Inévitablement, donc, le processus conduit à celui qui influence toute la création sans être à son tour influencé par elle et qui, par là, rompt la chaîne. L'intime réalité de cet être demeure toutefois inconnue, bien que ses effets soient clairs et manifestes. De plus, tous les êtres créés sont limités. Et cette limitation même de tous les êtres est une preuve de la réalité infinie, car l'existence d'un être limité dénote l'existence d'un être sans limite. En résumé, nombreuses sont les preuves établissant l'existence de cette universelle réalité. Et comme cette réalité est préexistante, elle est insensible aux conditions qui régissent les phénomènes, car toute entité soumise aux circonstances et au cours des événements est contingente et non préexistante. Sachez-le donc, cette divinité, que d'autres communions et d'autres peuples ont évoquée, entre dans le seul champ de leur imagination, alors que la réalité de Dieu défie toute conception. Quant aux saintes manifestations de Dieu, elles sont les foyers ou les signes, les témoignages et les perfections de cette réalité sacrée, préexistante, apparaissent dans toute leur splendeur. Elles sont une grâce éternelle, une gloire céleste, et c'est d'elles que dépend la vie éternelle de l'humanité. Pour illustrer cette notion, disons que le soleil de vérité réside dans un ciel qui demeure inaccessible aux âmes, quelles qu'elles soient, et qu'aucun esprit ne peut atteindre, car il est bien au-delà de la compréhension de toutes les créatures. Et pourtant, les saintes manifestations de Dieu sont semblables à un miroir, poli et sans tache, qui recueille des rayons lumineux de ce soleil et ensuite répand la gloire sur le reste de la création. Sur cette surface polie, le soleil est clairement révélé dans toute sa majesté. Ainsi, si le soleil reflété proclame « Je suis le soleil », il dit la vérité. Et s'il s'écrie « Je ne suis pas le soleil », il dit encore la vérité. Bien que l'astre du jour, dans toute sa gloire, sa beauté et ses perfections, soit clairement visible dans ce miroir sans tache, il n'est pas descendu de sa propre station exaltée dans les royaumes célestes. Il n'a pas pénétré dans le miroir. Il continue de résider, comme il le fera à jamais, dans les hauteurs suprêmes de sa propre sainteté. En outre, toutes les créatures terrestres ont besoin de la générosité du soleil, car leur existence même dépend de la lumière et de la chaleur solaire. Privées du soleil, elles seraient éliminées. Ceci est le fait d'être avec Dieu, dont parlent les saintes Écritures. L'homme doit être avec son Seigneur. Il est clair donc que la réalité essentielle de Dieu est révélée dans ses perfections et le soleil, avec ses perfections, reflété dans un miroir, est une chose visible, une entité exprimant avec clarté la générosité de Dieu. Mon espoir est que tu acquerras un regard perceptif, une oreille attentive, et que les voiles seront écartées de ta vue. Chapitre 22. Ô toi qui tournes ton visage vers Dieu, ferme les yeux à toutes choses et ouvre-les au royaume du Très-Glorieux. Ne demande qu'à lui et à lui seul de répondre à tes désirs et à tes aspirations, quels qu'ils soient. D'un seul de ses regards, il exauce 100 000 espérances. D'un seul de ses clins d'œil, il guérit 100 000 malades incurables. D'une seule de ses visions, il apaise chaque blessure. D'un signe de la tête, il délivre les cœurs des contraintes de l'affliction. Il fait ce qu'il fait, et de quel recours disposons-nous? Il exécute ses volontés, il décrète ce qui lui plaît. Ainsi, tu ferais mieux de baisser la tête en signe de soumission et de placer ta confiance dans le Seigneur très miséricordieux. Chapitre 23. Ô toi qui cherches la vérité, ta lettre du 13 décembre 1920 m'est bien parvenue. De l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, les religions de Dieu ont été rendues manifestes l'une après l'autre. Chacune d'elles a rempli sa fonction propre, revivifiant l'humanité, lui apportant l'éducation et l'illumination. Elles délivrèrent le peuple des ténèbres du monde, de la nature, pour les introduire dans la lumière du royaume. Tandis qu'elle était révélée, chaque foi et chaque loi divine successive demeuraient pendant plusieurs siècles comme un arbre aux fruits abondants, et le bonheur de l'humanité lui était confié. Au fil des siècles, cependant, la foi s'émoussait, cessait de prospérer et de produire des fruits. C'est pourquoi elle était à nouveau rajeunie. La religion de Dieu est une, mais elle doit sans cesse être renouvelée. Moïse, par exemple, fut envoyé à l'humanité. Il établit une loi, et par cette loi, la loi mosaïque, les enfants d'Israël furent délivrés de leur ignorance et connurent la lumière. Ils furent tirés de leur abjection et atteignirent une gloire qui ne s'efface pas. Avec le temps, toutefois, cette gloire s'éteignit. Cette splendeur déclina. Ce jour éclatant se changea en nuit. Et lorsque celle-ci eut atteint une obscurité 3 fois plus profonde, l'étoile du Messie apparut à l'horizon, illuminant le monde d'une gloire nouvelle. En d'autres termes, la religion de Dieu est une. Elle est l'éducateur de l'humanité, et cependant, elle doit être renouvelée. Lorsque tu plantes un arbre, il grandit de jour en jour. Il produit des fleurs, des feuilles et des fruits succulents. Mais à la longue, il vieillit et cesse de produire ses fruits. Alors le cultivateur de la vérité recueille la graine de ce même arbre, la plante dans une terre intacte, et voyez, là s'élève le premier arbre tel qu'il était auparavant. Souviens-toi toujours que dans ce monde de l'existence, toutes choses doivent sans cesse être renouvelées. Regarde comme le monde matériel autour de toi a été renouvelé. Les idées ont changé, les modes de vie ont été révisés, les sciences et les arts font preuve d'une vigueur nouvelle. Il y a des découvertes, des inventions, des perceptions nouvelles. Comment, dans ces conditions, un pouvoir vital tel que la religion, qui garantit les progrès de l'humanité, qui permet d'atteindre à la vie éternelle, qui est le promoteur de l'excellence infinie, la lumière de deux mondes, comment pourrait-il ne pas être renouvelé? Ce serait incompatible avec la grâce et l'amour du Seigneur. La religion, d'autre part, n'est pas une série de croyances et de traditions, mais les enseignements du Seigneur Dieu, enseignements qui constituent la vie même de l'humanité, qui élève l'esprit, affine le caractère et jette les fondements de l'éternelle dignité de l'homme. Réfléchis bien. Ces fièvres dans le monde de l'esprit, ces flammes de guerre et de haine, de ressentiment et de malveillance entre les nations, ces agressions des peuples les uns contre les autres, qui ont détruit la paix du monde tout entier, pourraient-elles jamais être combattues sans les eaux vivifiantes des enseignements divins? Non. Jamais. il est clair qu'un pouvoir supérieur aux forces de la nature doit être amené à s'exercer pour changer ses ténèbres en lumière, ses haines, ses ressentiments, cette animosité, ses rancunes, ses conflits et ses guerres sans fin, en solidarité et en amour entre tous les peuples de la terre. Or, ce pouvoir n'est autre que les brises du Saint-Esprit et le puissant influx de la parole de Dieu. Chapitre 24. Ô jeune homme épris de spiritualité, loue Dieu de t'avoir permis de trouver ton chemin vers le royaume de splendeur, de déchirer les voiles des vaines illusions et de connaître l'essence de l'intime mystère des choses. Ce peuple tout entier a imaginé un Dieu dans le royaume de l'esprit et adore l'image qu'il s'est créée. Et pourtant, cette image est perçue, l'esprit humain en étant l'organe percepteur, et à coup sûr, l'esprit qui comprend est au-dessus de l'objet qui est à sa portée. Car si l'imagination n'est que la branche, l'esprit est la racine. Et pour sûr, la racine a une valeur plus grande que celle de la branche. Considère à présent comment tous les peuples du monde plient le genou devant une illusion de leur propre invention. Comment ils ont imaginé un créateur à l'intérieur de leur propre conscience et l'appellent le plasmateur de tout ce qui existe alors qu'en vérité ce n'est qu'une illusion. Ainsi, les peuples adorent ce qui n'est qu'une erreur de perception. Cependant, cette essence parmi les essences, cet invisible parmi les invisibles, est sanctifiée au-dessus de toute spéculation humaine et ne sera jamais cernée par l'esprit de l'homme. Jamais cette réalité immémoriale ne se situera à la portée d'un être contingent. Son royaume est d'un autre ordre, et de ce royaume, aucune compréhension ne saurait être acquise. Il est impossible d'y accéder et son entrée est interdite. Tout ce que l'on peut en dire, c'est que son existence peut être prouvée, mais que les conditions de celle-ci demeurent ignorées. Qu'une telle essence existe, cela a été compris par tous les philosophes et les savants, mais chaque fois qu'ils tentaient de s'instruire sur son existence, ils restaient désorientés et consternés. Finalement, en proie au désespoir, leurs espérances ruinées, ils quittaient ce monde. Pour saisir l'état et le mystère intime de cette essence parmi les essences, du plus secret des secrets, il faut disposer d'un autre pouvoir et d'autres facultés. Or, un tel pouvoir, de telles facultés, serait plus que ne peut supporter l'humanité. C'est pourquoi aucune de ses paroles à lui ne peut parvenir aux hommes. Si, par exemple, une personne est douée des sens de l'ouïe, du goût, de l'odorat et du toucher, mais privée du sens de la vue, il lui est impossible de regarder autour d'elle, car la vision ne saurait être réalisée par l'ouïe, le goût, l'odorat ou le toucher. De la même manière, les facultés dont dispose l'homme ne lui permettent pas de saisir cette réalité invisible, sacrée et sanctifiée au-delà de tous les doutes des sceptiques. Pour y parvenir, il faudrait qu'il dispose d'autres facultés, d'autres sens. S'il était amené à disposer de tels pouvoirs, un être humain pourrait alors acquérir quelques connaissances de ce monde invisible. Autrement, jamais il n'y parviendra. Chapitre 25. Ô servante de Dieu. Il est écrit dans les histoires de l'Orient que Socrate se rendit en Palestine et en Syrie, où il recueillit certaines vérités spirituelles de la bouche d'hommes versés dans la religion, et que, lors de son retour en Grèce, il promulgua deux croyances, l'unité de Dieu et l'immortalité de l'âme après sa séparation du corps. Ces concepts, si étrangers à la pensée hellénique, suscitèrent une grande confusion parmi les Grecs, et finalement, ceux-ci empoisonnèrent le célèbre philosophe. Cela est authentique. En effet, les Grecs croyaient en de nombreux dieux, et Socrate établit le fait que Dieu est un, ce qui, de toute évidence, était en contradiction avec les croyances grecques. Le fondateur du monothéisme fut Abraham. C'est à lui que l'on peut faire remonter ce concept, et même à l'époque socratique, cette croyance était courante parmi les enfants d'Israël. Ce qui précède n'est pas mentionné dans les histoires juives. Il existe en effet de nombreux faits que ne rapporte pas l'histoire juive. L'histoire de Joseph, ne rend pas compte de tous les événements de la vie du Christ, bien que ce soit lui, un juif, qui ait écrit l'histoire de l'époque où vécut Jésus. On ne doit pas refuser de croire aux événements de la vie du Christ sous prétexte qu'ils ne sont pas rapportés dans l'histoire de Joseph. Les histoires orientales rapportent aussi qu'Hippocrate séjourna longtemps à Tyr, qui est une ville de Syrie. Chapitre 26. Ô toi qui cherches le royaume céleste, ta lettre m'est parvenue et je me suis pénétré de son contenu. Les saintes manifestations divines possèdent deux conditions, l'une d'ordre physique et l'autre d'ordre spirituel. En d'autres termes, l'une de ces conditions est celle d'un être humain et l'autre celle de la réalité divine. Si les manifestations sont soumises à des épreuves, c'est seulement dans leur condition humaine et non dans la splendeur de leur réalité divine. En outre, ces épreuves existent seulement du point de vue de l'humanité. En apparence, la condition humaine des saintes manifestations est soumise à des épreuves, et lorsqu'elles se sont révélées dans la plénitude de leur force et de leur endurance, d'autres hommes en tirent des enseignements. Ils apprennent quelle doit être leur propre constance et leur résistance au milieu des épreuves et des tribulations, car le divin éducateur doit instruire par des paroles et aussi par des actes, révélant ainsi à tous les hommes le droit chemin de la vérité. Quant à ma condition, elle est celle du serviteur de Baha, Abdu'l-Baha, la visible expression de la servitude au seuil de la beauté d'Abba. Chapitre 27. Dans les cycles passés, chacune des manifestations de Dieu a tenu son propre rang dans le monde de l'existence. Et chacune d'elles a représenté une phase particulière du développement de l'humanité. Mais la manifestation du plus grand nom, que ma vie soit sacrifiée pour ses bien-aimés, fut une expression de la maturité de l'intime réalité humaine en ce monde de l'existence. Le soleil est, en effet, la source de lumière et de chaleur, le foyer des splendeurs, et il renferme toutes les perfections manifestées par les autres étoiles apparues au-dessus du monde. Efforce-toi, à ton tour, de prendre ta place sous le soleil et de recevoir une part abondante de son éblouissante lumière. Je te le dis en vérité, une fois que tu auras atteint cette station, tu contempleras les saints inclinant humblement leur tête devant lui. Hâte-toi vers le printemps, avant la venue de l'automne, et avant que frappe la maladie, hâte-toi vers la guérison, afin de pouvoir devenir un médecin spirituel qui, grâce aux brises du Saint-Esprit, guérit tous les maux de cet âge de renom et de gloire. Chapitre 28. Ô feuille sur l'arbre de vie. L'arbre de vie, dont il est fait mention dans la Bible, est Baha'u'llah, et les filles du royaume sont les feuilles de cet arbre béni. Ainsi, rends grâce à Dieu de t'avoir relié à cet arbre et de t'avoir permis de prospérer à son image. Les portes du royaume sont grandes ouvertes, et chaque âme élue est assise à la table du Seigneur, recevant sa part de ce céleste festin. Dieu soit loué, tu es, toi aussi, présent à cette table, prenant ta part de la munificente nourriture du ciel. Tu sers le royaume et les subtils arômes du paradis d'Abba te sont familiers. Efforce-toi donc de tout ton pouvoir de guider tes semblables et mange de ce pain qui est descendu du ciel, car voici le sens des paroles du Christ. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Chapitre 29. Ô toi qui es captivé par la vérité et magnétisé par le céleste royaume, ta longue lettre m'est parvenue et m'a procuré une grande joie, car elle témoignait clairement de tes efforts acharnés et de tes nobles intentions. Dieu soit loué, tu veux le bien de tous les hommes. Tu languis après le royaume de Baha et aspires à voir progresser la race humaine. J'espère que grâce à ces idéaux, aux nobles aspirations de ton cœur, et à ces célestes nouvelles, tu deviendras si lumineux qu'éternellement l'éclat de ton amour envers Dieu répandra sa gloire. Tu m'as donné de toi la description d'un étudiant à l'école du progrès spirituel. Heureux que tu es. Si ces écoles de progrès conduisent à l'université céleste, alors seront créées des branches de la connaissance grâce auxquelles l'humanité verra la tablette de l'existence se déployer tel un rouleau à l'infini et toutes les choses créées apparaître sur ce rouleau tels des mots et des lettres. Alors on apprendra les différents niveaux de signification. Et à l'intérieur de chaque atome de l'univers, les signes de l'unicité de Dieu seront manifestes. Alors l'homme entendra le cri du Seigneur du royaume et contemplera les confirmations du Saint-Esprit venu le secourir. Alors il éprouvera un tel bonheur, une telle extase, que le vaste monde ne pourra plus le contenir et il partira pour le royaume de Dieu, se hâtant vers l'empire de l'Esprit, car lorsqu'un oiseau a développé ses ailes, il quitte le sol pour s'élancer très haut dans les cieux, sauf s'il est attaché par une patte ou que ses ailes sont brisées ou embourbées. Ô toi qui cherches la vérité, le monde du royaume est un. La seule différence est que le printemps ne cesse de revenir, provoquant chaque fois une nouvelle commotion parmi toutes les choses créées. Alors les plaines et les coteaux reprennent vie, les arbres se colorent d'un vert délicat, les feuilles, les fleurs et les fruits apparaissent dans toute leur beauté, à la fois tendre et infinie. C'est pourquoi les dispensations des âges écoulés sont intimement reliées à celles qui leur succèdent. En réalité, elles ne font qu'une, mais, à mesure que se développe le monde, la lumière se fait plus intense, ainsi que le déversement de la grâce céleste, et c'est alors que se met à briller l'astre du jour dans la splendeur de midi. Ô toi qui cherches le royaume, chaque manifestation divine est la vie même du monde et le médecin de chaque âme souffrante. Le monde de l'homme est malade et ce médecin compétent connaît le moyen de le guérir. Ses enseignements, conseils et exhortations sont un remède pour chaque douleur, un baume bienfaisant pour chaque blessure. Le médecin avisé peut à tout moment diagnostiquer les besoins de son malade et appliquer le traitement prescrit. C'est pourquoi, si tu appliques les enseignements de la beauté d'Abba aux nécessités urgentes du moment, tu constateras alors qu'ils apportent un remède immédiat au corps souffrant du monde. Ils sont, en vérité, l'élixir qui donne la santé éternelle. Le traitement prescrit par les médecins du passé et par ceux qui leur ont succédé n'est pas identique, mais dépend plutôt du mal dont souffre le patient. Le remède peut changer. Cependant, le but demeure le même, rendre la santé aux malades. Dans les dispensations du passé, le corps affaibli du monde ne pouvait résister à un traitement rigoureux. C'est pourquoi le Christ a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, que vous n'êtes pas en état de comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. » Ainsi, en cet âge de splendeur, des enseignements jadis réservés à quelques-uns sont dispensés à tous les hommes, afin que la miséricorde du Seigneur puisse embrasser toute la terre, à l'est comme à l'ouest, que l'unité du monde humain puisse apparaître dans toute sa beauté et toute sa plénitude, et que les rayons aveuglants de réalité puissent inonder de lumière le royaume de l'Esprit. La descente de la Nouvelle Jérusalem désigne une loi céleste, cette loi qui est la garantie du bonheur de l'humanité et la fulguration de la parole de Dieu. Emmanuel nota, ceci se rapporte manifestement au Bab, comme le montre clairement le texte et ne constitue nullement une référence à Swedenborg. D'après le secrétaire de Chori Effendi, de la part de ce dernier, le 9 mai 1938, au sujet de cette tablette, fut en vérité le héros du Christ, le héros du retour du Christ, celui qui conduisit l'humanité sur le chemin du royaume. Il est évident que la lettre est un membre de la parole, c'est-à-dire que la lettre est dépendante, quant à sa valeur, de la parole. Elle tire sa grâce de la parole, elle possède une parenté spirituelle avec la parole et elle est considérée comme partie intégrante de celle-ci. Les apôtres étaient semblables à des lettres et le Christ était l'essence de la parole elle-même. Le sens de la parole, qui est la grâce éternelle, déversa une splendeur sur ses lettres. De même, puisque la lettre fait partie de la parole, elle est donc, dans sa signification intime, en accord avec la parole. Nous espérons que tu te lèveras en ce jour pour promouvoir les prédictions d'Emmanuel. Sache en toute certitude que tu parviendras au but, car les confirmations du Saint-Esprit sont dispensées en permanence et le pouvoir de la parole exercera une telle influence que la lettre deviendra le miroir dans lequel se reflètera le resplendissant soleil, la parole elle-même. Et la grâce et la gloire de la parole illumineront la terre entière. Quant à la Jérusalem céleste qui s'est posée sur les sommets du monde, au sein des saints de Dieu, dont la bannière est maintenant élevée vers les cieux, elle renferme en elle-même toutes les perfections et tout le savoir des dispensations antérieures. Elle proclame l'unité des enfants des hommes. Elle est l'étendard de la paix universelle, l'esprit de vie éternelle. Elle est la gloire des perfections divines, la grâce omniprésente de toute existence, la parure ornant toute chose créée, la source de quiétude intérieure pour l'humanité tout entière. Porte ton attention sur les tablettes sacrées. Lis les Ishrakat, les Tadjaliyat, les paroles de paradis, les bonnes nouvelles, les Tarazat et le Kitab Yardas, livre le plus saint. Alors tu comprendras que ces enseignements célestes constituent l'unique remède pour un monde malade et souffrant, et qu'ils sont un baume bienfaisant pour les blessures de l'humanité. Ils sont l'esprit de vie, l'arche du salut, l'aimant qui attire sur ce monde la gloire éternelle, le pouvoir dynamique destiné à motiver la conscience humaine. Chapitre 30. L'existence revêt de formes. L'une d'elles est l'existence de Dieu, qui est au-delà de la compréhension humaine. Lui, l'invisible, l'exalté et l'insaisissable, n'est précédé d'aucune cause. C'est plutôt lui qui est l'origine de la cause parmi les causes. Lui, l'ancien, n'a pas eu de commencement. Il est l'indépendant par excellence. La seconde forme d'existence est l'existence humaine. C'est une existence ordinaire, que l'esprit humain peut comprendre. Elle n'est pas ancienne, elle est dépendante et est reliée à une cause. La substance mortelle ne devient pas éternelle, et vice-versa. La race humaine ne devient pas un créateur, et vice-versa. La transformation de la substance innée est une impossibilité. Dans le monde de l'existence, celui qui est compréhensible, il existe plusieurs stades de mortalité. Le premier stade est le monde minéral, et ensuite vient le monde végétal. Dans ce dernier, le minéral existe, mais sous une forme distinctive, qui est la caractéristique du végétal. De même, dans le monde animal, les caractéristiques minérales et végétales sont présentes, et en plus, on y trouve les caractéristiques du monde animal, à savoir les facultés de la vue et de l'ouïe. Dans le monde humain, on trouve les caractéristiques des mondes minéral, végétal et animal, avec en plus celles de la race humaine, c'est-à-dire la caractéristique de l'intelligence, qui découvre les réalités des choses et saisit les principes universels. Ainsi, l'homme est, sur le plan du monde contingent, l'être le plus parfait. Par l'homme, on entend l'individu parfait, qui est semblable à un miroir dans lequel se manifestent et se reflètent les perfections divines. Néanmoins, le soleil ne descend pas du haut de sa sainteté pour entrer dans un miroir, mais lorsque ce dernier est purifié et tourné vers le soleil de vérité, les perfections de ce soleil, sa lumière et sa chaleur, se reflètent et se manifestent dans ce miroir. Ces âmes sont les divines manifestations de Dieu. Chapitre 31. Ô toi, être estimable et sage. Ta lettre du 27 mai 1906 m'est parvenue. Elle contient de bien agréables nouvelles et m'a causé une grande joie. Tu me demandes si cette cause, cette nouvelle et vivante cause, pourrait prendre la place des rites et cérémonies religieuses en Angleterre, s'il serait possible, à présent que sont apparus divers groupes dont les membres sont d'éminents religieux et théologiens, de loin supérieurs par leur réalisation à ceux du passé, que cette noble cause en arrive à impressionner les membres de ces groupes à un degré tel qu'elle les rassemble, eux et tous les autres, sous son ombre protectrice. Ô cher ami, sache que l'individu distingué de chaque âge est doué selon les perfections de son âge. Cet individu, qui dans les âges passés fut placé au-dessus de ses contemporains, était doué des vertus de son temps. Mais en cet âge de splendeur, en cette ère divine, le personnage prééminent, l'astre lumineux, l'individu choisi, resplendira de telle perfection et d'un tel pouvoir qu'il en arrivera, en définitive, à éblouir les esprits de chaque communauté et de chaque groupe humain. Un tel personnage est supérieur à tous les autres sur le plan des perfections spirituelles et des connaissances célestes. Et il est véritablement le foyer de bénédiction divine et le pivot du cercle lumineux. Il contiendra par conséquent tous les autres, et sans nul doute, son éclat se fera si puissant qu'il rassemblera toutes les âmes sous son ombre protectrice. Si tu examines attentivement ce problème, tu constateras qu'il s'agit là d'une loi universelle qui s'applique à toute chose. Le tout attire la partie, et dans le cercle, le centre est le pivot des compas. Médite sur l'esprit, nota Jésus. Parce qu'il était le foyer de pouvoir spirituel, la source de générosité divine, et bien qu'au début il n'attira à lui qu'un très petit nombre d'adeptes, il a su, grâce à ce pouvoir qui subjugue toute chose, unir par la suite toutes les différentes sectes sous le tabernacle protecteur du christianisme. Compare le présent au passé, et vois combien grande est la différence. Ainsi, tu pourras parvenir à la vérité et à la certitude. Les différences entre les religions du monde sont dues à la diversité des formes d'esprit. Tant que les pouvoirs de l'esprit sont variés, il est certain que les jugements et les opinions des hommes différeront les uns des autres. Si toutefois un pouvoir de perception unique et universel était introduit, un pouvoir contenant tous les autres, ces opinions divergentes se fondraient en une harmonie et une unité spirituelle. Ainsi, lorsque se manifesta le Christ, l'esprit des divers peuples de son époque, leurs opinions, leurs attitudes émotives, différaient selon qu'il s'agissait de Romains, de Grecs, de Syriens, d'Israélites ou d'autres peuples. Toutefois, sous l'influence de son pouvoir universel, il réussit progressivement, après 300 ans environ, à rassembler tous ces esprits divergents sous la protection et la conduite d'un seul point central, les hommes partageant tous, en leur cœur, les mêmes émotions spirituelles. Sous forme de métaphore, disons que lorsqu'une armée est placée sous le commandement de plusieurs officiers supérieurs, chacun possédant sa propre stratégie, leurs points de vue sur les dispositifs et les mouvements de troupes seront évidemment différents. Mais si le commandant en chef, parfaitement versé dans les sciences militaires, prend en main la direction des troupes, ses autres plans disparaîtront, car le général suprêmement doué prendra sous son contrôle l'armée tout entière. Cela n'est qu'une métaphore et non pas une comparaison exacte. À présent, si vous supposez que les autres généraux sont eux aussi éminemment versés dans l'art militaire, parfaitement compétents et expérimentés, et qu'ainsi ils ne se soumettront pas à la règle d'un seul individu, aussi éminent soit-il, votre supposition est insoutenable, car la situation exposée plus haut, logiquement, est bien celle qui va se produire, cela ne fait aucun doute. Tel est le cas des saintes manifestations de Dieu, et en particulier de la réalité divine du plus grand nom, de la beauté d'Abba. Lorsqu'il est révélé au peuple rassemblé du monde et apparaît avec tous ses attraits et ses enchantements, séduisant tel un Joseph dans l'Égypte de l'Esprit, il enchaîne tous les amoureux sur la terre. Quant aux âmes qui sont nées dans cette vie en tant qu'entité éthérée et radieuse, mais qui, du fait de leurs imperfections et de leurs épreuves, sont privées d'avantages importants et réels, et quittent ce monde sans avoir pu s'épanouir, leur sort est une cause de profonde tristesse. C'est la raison pour laquelle les manifestations universelles de Dieu dévoilent leur propre visage aux hommes de leur temps, endurent toutes sortes de calamités et d'afflictions et font le sacrifice de leur vie pour racheter l'humanité. C'est pour que ces mêmes hommes, ceux qui sont prêts et possèdent des aptitudes, deviennent des sources lumineuses et reçoivent la vie qui jamais ne s'éteint. Voilà le véritable sacrifice, l'offrande de soi, comme le fit le Christ, afin de racheter la vie du monde. Quant à l'influence des êtres saints, et quant au fait qu'ils continuent de dispenser leur grâce à l'humanité après avoir abandonné leur forme humaine, c'est là pour les baillis un fait incontestable. En vérité, les grâces débordantes et les splendeurs irradiantes des saintes manifestations apparaissent après que ces dernières ont quitté ce monde. L'exaltation de la parole, la révélation de la puissance divine, la conversion d'âmes qui craignaient Dieu, la dispensation de la vie éternelle, c'est après le martyre du Messie que toutes ces grâces se multiplièrent et s'intensifièrent. De la même manière, depuis l'ascension de la beauté bénie, les bienfaits de Dieu ont été toujours plus abondants, la lumière plus rayonnante, les signes de la puissance du Seigneur plus évidents. L'influence de la parole s'est étendue, et bientôt le mouvement, la chaleur, l'éclat et les bénédictions du soleil de sa réalité animeront la terre tout entière. Ne t'inquiète pas de la lenteur des progrès de la cause Bahaï dans ce pays. Nous n'en sommes encore qu'aux lueurs de l'aube. Songe que pour la cause du Christ, il fallut attendre 3 siècles avant que se manifeste son immense influence. Aujourd'hui, moins de 60 ans après la naissance de cette foi, sa lumière a été diffusée sur toute la planète. En ce qui concerne l'association pour la santé à laquelle tu appartiens, son influence s'accroîtra au centuple lorsqu'elle se trouvera sous la protection de cette foi. Tu écris que l'amour parmi les Bahaïs est très intense et que l'amour, c'est l'essentiel. La puissance de l'amour a été développée à un très haut degré parmi les Bahaïs. L'amour y est bien plus fort que parmi les disciples d'autres religions. Et il en est ainsi de toutes les autres vertus, l'amour étant le fondement de toute chose. Sous peu, les livres et les tablettes de la beauté bénie seront traduits dans toutes les langues en un style puissant, clair et distingué. Le jour où ils seront traduits, conformément à l'original, dans un style à la fois puissant et distingué, les splendeurs de leur signification profonde se répandront à travers le monde et illumineront les yeux de tous les hommes. Fais de ton mieux pour que la traduction soit conforme à l'original. La beauté bénie s'est rendue à Haïfa à de nombreuses reprises. Tu as eu l'occasion de le contempler, mais à l'époque, tu ne le connaissais pas encore. J'espère que tu parviendras à le rencontrer véritablement, c'est-à-dire à le contempler non pas avec l'œil physique, mais avec l'œil spirituel. L'essence de l'enseignement de Baha'u'llah est l'amour qui embrasse toute chose, car l'amour contient toutes les qualités humaines. Il permet à chaque âme de progresser. Il dispense à chacune, en héritage, la vie immortelle. Sous peu, tu seras témoin que ces célestes enseignements, la gloire de la réalité elle-même, illumineront les cieux du monde. La courte prière par laquelle tu terminais ta lettre est à la fois originale, émouvante et belle. Récite cette prière à tout moment.